bise pleurait, avec lui sanglotait.
La bise pleurait, avec lui sanglotait.
Ce que disait l'oiseau, l'oiseau du champ fauve.
L'oiseau, l'oiseau.
Ce que disait l'oiseau, l'oiseau du champ fauve.
L'oiseau, l'oiseau.
Dans le champ fauve, c'était.
Bonsoir. Dans le cadre de notre série d'émissions consacrée à Louise Michel, nous vous proposons ce jour la 6e émission qui nous fera vivre la déportation de Louise Michel durant 7 années en Nouvelle-Calédonie et ses démarches pour obtenir la grâce des déportés, puis son action une fois rentrée en métropole, action qui la conduira à nouveau à être emprisonnée. Bonne écoute.
Thank you. Victor Hugo. Baie de l'Ouest, 18 juin 1876. Cher maître, voici quel est mon rêve en ce moment. Passer quelque temps à Bouraille pour terminer mon livre du bagne et aller également, pendant assez longtemps pour me rendre compte de la langue et des usages, dans une tribu kanak où notre influence ne se serait pas encore fait sentir. J'y commencerai une école. Aurais-je jamais la facilité, c'est-à-dire me laissera-t-on jamais aller jusque-là, je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on revenait jamais, ce dont je ne m'occupe nullement, je ne reviendrai pas sans cela. Car on ne fait pas 6 000 lieues pour ne rien voir et n'être utile à rien. Au revoir, cher maître. Je vous envoie tout ce qui n'est pas éteint de poésie en moi. Louise Michel. Post-scriptum. Répondez-moi, cher maître, quoique je sois plus que jamais comme une use, et prête à recommencer la lutte contre tout ce qui doit disparaître d'erreurs et d'injustices.
Quand nous avons tous bien appris que nous avons été bien sages, on nous donne le jour des prix, de beaux livres et des images.
Aussi le cœur plein de bonté, bienheureux de nos récompenses, nous en allons en vacances. Vive la liberté, ok, vive la liberté.
À l'école, nos jours sont beaux, et le temps passe vite, vite. Riches et pauvres sont égaux, chacun selon son mérite.
On a pour nous-mêmes bonté, ça fait que ça nous encourage et donne du cœur à l'ouvrage. Vive l'égalité, ok, vive l'égalité.
Nous le disons, nous le chantons, nos maîtres sont de vrais apôtres, et profitant de leurs leçons, nous nous aimons les uns les autres.
Aussi c'est la franche gaieté, en classe comme en promenade, vive nos petits camarades. Et la fraternité, ok, et la fraternité.
Baie de l'Ouest. Nouvelle-Calédonie, 3 août 1876. Vous vous faites adresser des recours en grâce. Le chat joue avec la souris, et de temps à autre desserre ses griffes. Bandit. Bandit, misérable bandit. Et vous croyez-vous qu'on vous pardonne? Jamais! Jamais! À bientôt, la révolution. Louise Michel. 15 octobre 1879. Cher citoyen Clémenceau, j'espère que cette lettre vous parviendra sûrement et promptement. Se peut-il que vous supportiez l'avilissement du gouvernement Grévy? Cette république qui porte un masque d'honnêteté sur son visage de prostituée me fait horreur. Je regarde la France avec ma vieille expérience de 7 ans de Calédonie comme une nation pourrie, aussi incapable d'avoir une vraie république que la Rome des Césars. Je souhaite que dans les hommes qu'on appelle une grande nation germe quelque chose de bon, mais j'en désespère. J'aimerais mieux aller me réchauffer le cœur aux idées qui flambaient en Russie. Je n'ai jamais fait de la révolution en amateur, mais pour tout de bon. Et la France me fait horreur et dégoût. Tâchez de galvaniser ce cadavre. Mais je crois la décomposition trop complète. Pardonnez-moi de vous parler avec cette franchise, mais voyez-vous-même, ne pouvez-vous parler de si haut à ce gouvernement qu'il sente son abjection? Je vous serre la main de tout cœur. Et je n'en aime pas moins les amis et amies. Mais je préférerais vous voir tous où nous sommes que parmi ces idiots et ces lâches. Ils m'ont jeté une grâce. Moi, je n'ai qu'un mot à leur jeter. Pouah. Quand auront-ils fini d'embonaparter le peuple? En supposant qu'il y ait encore un peuple. À la fin, le cœur déborde. Au revoir. Je voudrais vous voir prendre la tête d'une révolution, et non d'une opposition qui suppose la conservation. Louise Michel.
Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'eût été la commune, composée d'hommes d'intelligence, de courage et d'une incroyable honnêteté. Le pouvoir, incontestablement, les annihila.
Les honnêtes gens au pouvoir sont aussi incapables que les malhonnêtes sont nuisibles. Il est donc impossible que la liberté s'aligne jamais avec un pouvoir quelconque.
C'est que le pouvoir est maudit. Et c'est pour cela que je suis anarchiste.
Oh, révolution, mère qui nous dévore et que nous adorons, suprême égalité, prends nos destins brisés pour en faire une aurore. Que sur nos morts chéris, plat de la liberté, quand mes sinistres sonnent, éveille-nous encore à ta magnifique clarté.
Vous voulez nous faire la guerre, messieurs de la réaction, nous vous réduirons en poussière, car votre lâche trahison a pour longtemps perdu la France.
Conches, 10 novembre 1880. Chers citoyens Rochefort et Pain, je reçois une dépêche de Pain qui me demande des détails sur mon arrivée. Mais vous savez bien que si j'accepte d'être l'objet d'une de ces réceptions qui ne sont pas payées trop cher de toute une vie, je ne veux pas que ce soit ma personnalité, mais uniquement la révolution sociale et les femmes de cette révolution auxquelles tout soit adressé. Du reste, je ne me souviens que de ceci, c'est que je vous ai tous embrassés à mon arrivée et qu'affolée par l'idée de revoir ma mère, je n'ai rien voulu entendre et n'ai rien compris avant d'être à la gare Saint-Lazare. J'ai vu seulement cette grande foule grondante que j'aimais tant autrefois et que j'aime plus encore depuis que je reviens du désert. J'ai entendu seulement la Marseillaise. Et une unique impression m'a dominée, c'est qu'au lieu de livrer à de nouvelles hécatombes cette foule bien aimée, il vaut mieux ne risquer qu'une tête. Et que les nihilistes ont raison. J'ai hâte de remercier. J'ai hâte de dire qu'avec les 10 déportés qui sont revenus hier, nous avons eu également à Londres, par les derniers proscrits, un de ces accueils fraternels qui nous avait presque préparés à la journée d'hier et qui prouve combien nous sommes amis et combien nous nous souvenons à travers le temps, l'exil et la mort. J'écris en même temps qu'à vous, à Geoffrin, au sujet de la réunion de Montmartre, avant laquelle je ne pus aller à aucune. C'est à Montmartre que j'ai marché autrefois. C'est avec Montmartre que je marche aujourd'hui. Je vous embrasse de tout cœur. Louise Michel.
Depuis que d'un temple on l'a chargé, notre vieux Montmartre est bien changé. Grâce aux travaux qu'on exécute sur la butte, autrefois des mains et des pieds fallait grimper sans escalier. On s'embêtait pas une minute sur la butte. Quand je me promène en haut pour voir, en riant je me souviens d'avoir déchiré mes premières culbutes sur la butte. C'est que je la connais dans tous les coins, ces sentiers de mes jeux furent témoins. Avec les filles on faisait la lutte sur la butte. Parmi les grues à Faux-Chignon, qu'habitent des hôtels à Pignon, y en a plus d'une qui débute sur la butte. Pour ma part, je connais une catin qui demeure au second chaussée d'Antin et qui jadis faisait la culbute sur la butte. De l'atelier fuyant un toit, du côté qui regarde Saint-Ouen, on valsait au son de la flûte sur la butte. Aujourd'hui dans le bal du moulin, Calico va faire le malin. On ne danse plus maintenant, on chahute sur la butte. Que le pays soit transformé, du peuple il est toujours aimé. Crois pas que personne me réfute sur la butte. Bien qu'on trouve dans un de ces petits chemins le cabaret des assassins, y a pas d'escarpe, jamais on bute sur la butte. Je sais bien qu'ils ont planté dessus leur sein de sacré cœur de Jésus. Belle Populo n'est pas une brute sur la butte. Et quand ils chanteront dans leur cœur les cantiques du sacré cœur, tout le monde leur y répondra flûte sur la butte. À Montmartre on est décidé, chacun dans son cœur a gardé souvenir de la dernière lutte sur la butte. Sur la butte.
À partir de ce moment-là, j'ai un petit peu perdu la trace de Louise Michel. La Calédonie était bien loin. Et puis à son retour en France, Louise Michel ne tenait pas en place. C'était une espèce de star qui symbolisait, aux yeux de beaucoup, la commune de Paris. Et elle était aussi très recherchée par la police. Alors elle allait de ville en ville, à peu près toutes les villes de France, la Belgique, l'Algérie, Londres aussi, pour prêcher la parole libertaire. Et puis bien sûr, elle s'est offert encore quelques belles années de prison. Clermont, Saint-Lazare, Aubry. Alors elle en a profité pour écrire toute son histoire. Et puis aussi pour assouvir qui était sa première passion, la poésie.
Souvenons-nous, mes amis, des vers sublimes que Victor Hugo écrivit au lendemain de 71.
Viro Maior, plus grand de qu'un homme.
Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous. N'en oublie de toi-même à secourir les autres. Ta parole semblable à celle des apôtres.
Ta bonté, ta fierté de femme populaire. L'âpre attendrissement qui dort sous ta colère. Ton long regard de haine à tous les inhumains. Et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains.
Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditait. Et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré la voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse.
Merci. Merci, mes amis. J'accepte ces fleurs au nom de la révolution sociale et au nom des femmes qui ont combattu pour leur émancipation. Oui, c'est le peuple que je salue ici et à travers lui, la révolution sociale. Espérons que nous ne verrons plus Paris changer en fleuve de sang. Le jour où tous ceux qui ont calomnié la commune ne seront plus, ne seront vengés. Nous ne voulons plus de vengeance par le sang. La honte de ces hommes nous suffira. Nous acceptons les ovations qu'on nous fait, non pour nous, mais pour la commune et pour ses défenseurs.
Vive la commune !
Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais « J'ai tué, car tu voulais mourir. » Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith, la sombre juive, Aria la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier, j'ai brûlé les palais. Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais, j'ai tué, qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser. Ton œil fixe pesait sur les juges livides et tu songeais pareil aux graves Euménides. La pâle mort était debout derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant aime, hait la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus d'en haut, dans l'attitude austère du refus. Elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose, et trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle battait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient « Qu'elle meure !»« C'est juste !»« Elle est infâme, à moins qu'elle ne soit auguste, » disait leur conscience. Et les juges pensifs, devant oui, devant non, comme entre deux récifs hésitaient, regardant la sévère coupable. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si l'on te disait « D'où viens-tu » tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. Oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes fleurs données à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditait. Et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudisseur qui s'acharnant sur toi te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse. Tu fus haute et sembla étrange en ces débats. Car chétifs comme sont les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos des choses étoilées aperçut tout au fond d'un grand cœur inclément et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement.
Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et ces 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.
Paul Mac à Louise Michel.
Elbeuf, 14 décembre 1880. Ma chère Louise, que n'étiez-vous hier et avant-hier à Elbeuf avec moi? Quel enthousiasme, quelles émotions profondes! Ces malheureux prolétaires elbeuviens réduits à un salaire dérisoire, 2 et 3 francs par jour, de par l'exploitation abusive des capitalistes, comme ils comprenaient la question sociale et la nécessité de la révolution. On vous aime ici, cher ami. On vous vénère, comme partout, et l'on voudrait bien vous voir. Vous avez été nommée par acclamation présidente d'honneur de ma première conférence et le régicide Berezovski, président d'honneur de la seconde. Vous le voyez, cela va bien à Elbeuf, et la province sera bientôt à la hauteur des Parisiens les plus avancés. Je serai demain à Paris. J'irai passer l'après-midi vers vous et nous ferons ensemble les articles pour la révolution sociale. Ne vous en tourmentez pas. 1000 baisers pour vous, ami, et pour ma chère petite Marie. Au revoir. À bientôt. Paul Mac.
Les gens qui traînent la misère sont doux comme de vrais agneaux. Ils sont parqués sur cette terre et menés comme des troupeaux. Et tout ça chante et tout ça danse pour se donner de l'espérance. Et tout ça chante et tout ça danse pour se donner de l'espérance. Pourtant ces gens à pâle mine ont bon courage et bonnes dents, grand appétit, grande poitrine, mais rien à se mettre dedans. Et tout ça jeûne et tout ça danse pour se venger de l'abstinence. Et tout ça jeûne et tout ça danse pour se venger de l'abstinence. Dans ces pauvres traînent guêtres, sont nombreux comme les fourmis. Ils pourraient bien être les maîtres, et ce sont eux les plus soumis. Et tout ça trime et tout ça danse pour s'engourdir dans l'indolence. Et tout ça trime et tout ça danse pour s'engourdir dans l'indolence. même pas une pierre, pas un centime à protéger. Ils n'ont pour eux que leur misère et leurs deux yeux pour en pleurer. Et tout ça court et tout ça danse pour un beau jour sauver la France. Et tout ça court et tout ça danse pour un beau jour sauver la France. En matin à la nuit noire, ça travaille pour 40 ans. À l'hôpital finit l'histoire et c'est au tour de leurs enfants. Et tout ça souffre et tout ça danse en attendant la providence. Et tout ça souffre et tout ça danse en attendant la providence. Et en avant, ô vous qu'on nomme, chair à canon et sac à vin, va-nu-pieds et bêtes de somme, traîne misère et meurt de faim. Et en avant, et que tout danse, pour équilibrer la balance. Et en avant, et que tout danse, pour équilibrer la balance.
Citoyens, vous nous demandez, à Paul Minck et à moi, ce que nous pensons des candidatures mortes. Voici ma réponse, en attendant celle de la citoyenne Minck qui, je crois, ne s'en écartera guère. Les candidatures mortes sont à la fois un drapeau et une revendication. Elles sont l'idée pure de la révolution sociale, planant sans individualité. L'idée qu'on ne peut ni frapper, ni détruire. L'idée invincible et implacable comme la mort. La candidature illégale est juste. La candidature morte est grande comme la révolution même. Quant aux candidatures de femmes, c'est aussi une revendication, celle de l'esclavage éternel de la mère qui, justement, doit élever les hommes et les fait ce qu'ils sont. Mais peu importe. Ne faisons-nous pas partie de l'esclavage commun. Nous combattons l'ennemi commun. Pour ma part, je ne m'occupe guère des questions particulières étant, je le répète, avec tous les groupes qui attaquent soit par la pioche, soit par la mine, soit par le feu, l'édifice maudit de la vieille société. Salut au réveil du peuple et à ceux qui, en tombant, ont ouvert si grandes les portes de l'avenir que toute la révolution y passe. Louise Michel, lettre publiée dans La Révolution sociale. 2 août 1882. Cher citoyen Clémenceau, j'espère bien que vous n'entrerez pas dans ces ministères-là. Que ceux qui ont versé cette coupe de fange la boivent. Que pourriez-vous faire dans ce cloaque ? Rien. Il est impossible de tirer de la situation où ces gens ont mis la France autre chose que de la honte. Il n'y a qu'une révolution qui peut tout sauver. Non, n'entrez pas dans ce ministère qui prendra le triste héritage d'autant de turpitudes cachées que de turpitudes découvertes. Je vous serre la main. Louise Michel.
Avec sa neige froide et blanche, la terre est d'un pâle de mort. Tortillant de la hanche, fait la chasse au gibier qui dort. Vite un bon feu de paille où gara la volaille. Eh ohé les gens de chez nous, oh loup. Nous sommes sous la République, mais tout est encore à changer. On fait beaucoup de politique et nous n'avons pas à manger. ça c'est pas nature, et le peuple murmure. Eh ohé, les gens de chez nous, oh loup, il faut payer l'air qu'on respire. Payer, payer, toujours payer. On gruge comme sous l'empire, le paysan et l'ouvrier. Et quand l'ouvrage manque, c'est du plomb qu'on vous flanque. Eh ohé, les gens de chez nous, oh loup, il est visible que les traîtres qui pressurent les pauvres gens nous préparent de nouveaux maîtres pour nous reculer de 100 ans. Balage général et vive la sociale. Eh ohé, les gens de chez nous, oh loup.
Madame, il y a longtemps que vous me gênez. Je souffrais de vous savoir en liberté. Quand vous avez été en prison, ça m'a fait plaisir. Mais le tour qu'on vous a fait me rend tout à fait heureux. J'espère bien qu'on ne s'arrêtera pas là. Et du reste, on n'aurait pas commencé dans cette voie pour s'arrêter. Je voudrais vous voir attaché à un poteau et vous faire souffrir. Mais j'espère bien qu'on vous fera pire que la torture, car cela m'est odieux de vous entendre dire que tout le monde peut être heureux. Un de vos ennemis.
Lettre publiée dans le Grand Journal, 14 janvier 81. À la citoyenne Aimée Gesselin. Trois journaux ont pris ma défense depuis quelques jours. Le Citoyen, La Pensée Libre, La Révolution Sociale. Je réponds d'abord à l'article qui porte une signature de femme. Merci du fond du cœur aux amis qui se révoltent pour moi devant d'odieuses et idiotes accusations. Mais à quoi bon s'inquiéter et s'émouvoir ainsi des mensonges de la réaction? Si ces gens-là étaient de bonne foi, on pourrait discuter avec eux. Mais leurs actes prouvant le contraire, nous n'avons qu'à éclairer le peuple sur leur compte et à nous regarder comme très honorés de ne pas avoir leur sympathie. Il y a deux sortes de réactions. La réaction trompée, qui dans les réunions publiques répond par un long hurlement quand on dit que M. Gambetta n'est pas fidèle à son programme de Belleville, que M. Gambetta ne fait preuve ni de courage ni d'intelligence en s'enfuyant parce que des opportunistes qui trouvent opportun de se moquer de lui prétendent que Rochefort est embusqué derrière une porte, ou quand il fait doubler ses gardes ayant eu la vision d'une femme nihiliste dans les couloirs de la chambre, ou bien encore que Léon Ier vaut Napoléon III et que nous sommes en plein empire, ayant même à l'horizon opportuniste une guerre opportune. À cette réaction-là, je réponds parce qu'elle est la foule trompée, la foule irresponsable qu'on a toujours divisée entre égorgeurs et égorgés. La réaction à laquelle je ne réponds pas quand elle n'insulte que ma personne, c'est la réaction responsable et trompeuse qui s'appelle la France, le Petit Journal, Le Gaulois, Le Figaro et autres, dont l'approbation me ferait horreur et honte. Jamais ils n'auront autant de haine pour moi que j'ai de mépris pour eux. Laissons ces organes de tous les crimes opportuns, de toutes les turpitudes, de toutes les comédies opportunistes s'acharner contre nos personnes. Et contentons-nous de tenir notre drapeau assez haut pour qu'il n'y puisse atteindre. Merci encore, chers amis. Mais vous le voyez bien, au milieu d'un peuple envahi de la lèpre opportuniste, tous les progrès, toutes les réformes sont dérisoires. Il n'y a que la révolution. Et si cette révolution n'est plus possible par le peuple, j'ai raison encore de vous dire, je suis avec ceux d'entre vous qui vont en avant. Mais je n'appartiens à aucun de vos groupes. Je vais devant moi, calme et froide, sous le souffle glacé du Nord, n'ayant ni haine, ni pitié pour les hommes ou les choses qui entravent la révolution, et ne les considérant que comme des obstacles qui doivent disparaître. Louise Michel.
S'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés, les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder, des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire ne veillent pas. Le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus
Avez-vous déjà été poursuivi?
Oui, en 71.
Ne peut plus en être question, ces faits ont été couverts par l'amnistie. Avez-vous été condamné depuis?
J'ai été condamné à 15 jours de prison pour la manifestation de Blanqui.
Vous prenez donc part à toutes les manifestations?
Hélas, oui. Je suis toujours avec les misérables.
C'est pour cela que vous avez assisté à la manifestation de l'esplanade des Invalides. Quel résultat en espériez-vous?
Une manifestation pacifique est toujours sans résultat. Mais je pensais que le gouvernement userait de ses moyens habituels et que la manifestation serait balayée par le canon. Et il eût été lâche de ma part de ne pas y aller.
Quel était votre but en parcourant Paris avec un drapeau noir? Croyez-vous que vous procureriez ainsi du pain aux ouvriers?
Non, mais je voulais faire voir qu'ils en manquaient et qu'ils avaient faim. C'est le drapeau des grèves, le drapeau des famines que je tenais.
Le témoin Boucher vous a vu à la tête d'une bande. Et 15 à 20 individus s'en sont détachés pour piller la boutique en criant « Du pain, du travail ou du plomb !»
Ils n'étaient pas des nôtres. C'est la mise en scène de la police, cela.
Vous avez dit dans un interrogatoire que vous ne regardiez pas comme un délit de propre.
Oui, mais jamais je n'en ai pris. Jamais je n'en prendrai, quand même je mourrai de faim.
Quand vous avez été arrêté, place Maubert, avez-vous dit à l'officier de police « Ne me faites pas de mal, nous ne demandons que du pain ?»
Je n'ai pas dit « Ne me faites pas de mal ». Non, mais j'ai peut-être dit « Nous ne demandons que du pain, on ne vous fera pas de mal ».
En tout cas, la boulangerie de M. Boucher a été complètement pillée.
Je n'ai même pas vu de boulangerie, je ne connais pas M. Boucher.
La boutique avance sur la rue, elle crève les yeux. Avez-vous levé votre drapeau devant cette boutique?
J'ai pu le lever, c'est bien des fois.
Avez-vous dit « Allez » ?
J'ai pu le dire, mais j'ai dû dire bien des fois « Allons » ou « Marchons », je m'en souviens pas.
Bref, la boutique a été complètement pillée.
J'ai vu piller et tuer bien autre chose.
Alors cela vous est absolument indifférent?
Oui, absolument indifférent.
Vous êtes-vous arrêté devant la boutique Morisset?
Je ne sais pas, je ne comprends pas que vous me posiez une pareille question.
Vous êtes-vous mise à rire devant la boutique?
Je ne sais pas ce qui aurait pu me faire rire. Est-ce la misère de ceux qui m'environnaient?
En somme, vous vous prétendez étrangère à tout ce fait-là.
Oui.
Mais ces commerçants dévalisés prétendent que la foule obéissait à un signal.
C'est inerte. Pour obéir à un signal, il faut qu'il soit convenu. Il aurait fallu faire savoir dans tout Paris que je lèverais le drapeau devant les boulangeries.
Silence! Mademoiselle Morisset, votre témoignage.
Le 9 mars dernier, j'étais dans la boutique avec ma sœur et ma mère. Quand j'ai vu arriver devant la maison une bande conduite par une femme armée d'un drapeau noir. Cette femme s'est arrêtée devant la boutique. Elle a frappé la terre de son drapeau et elle s'est mise à rire.
Merci. Voilà qui est tout à fait clair.
C'est un véritable procès politique qu'on nous fait. Ce n'est pas nous qu'on poursuit. C'est le parti anarchiste que l'on poursuit en nous. Nous défendons la République et quand on nous dit que nous sommes ses ennemis, nous n'avons qu'une chose à répondre. C'est que nous l'avons fondée sur 35 000 de nos cadavres. En quoi votre République diffère-t-elle de l'Empire? Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Monsieur l'avocat général m'accusait de vouloir être chef. J'ai trop d'orgueil pour cela, car je ne saurais m'abaisser. Et être chef, c'est s'abaisser. Que la liberté se fasse. Que l'égalité se fasse et nous serons heureux.
Silence! Vous êtes condamné à 6 ans de réclusion et 10 ans de surveillance policière. On l'enferme à la prison de Saint-Lazare. Vous avez 3 jours pour prendre pourvoi en cassation.
Jamais. Vous imitez trop bien les magistrats de l'Empire. Ce n'est pas une miette de pain. C'est la moisson du monde entier qu'il faut à la race humaine tout entière. Sans exploiteur et sans exploiter.
On fait!
La solitude repose, surtout quand on a passé une grande partie de sa vie. Avoir toujours besoin d'une heure de silence, sans la trouver jamais, si ce n'est la nuit. Et encore la nuit, dans ces circonstances-là, on se dépêche de penser, de se sentir vivre, de lire, d'écrire, d'être un peu un être libre. C'est le cas d'un grand nombre d'institutrices. À la dernière leçon, on se sentait devenir la bête surmenée. Mais la bête encore fière, relevant la tête pour aller jusqu'à la fin de l'heure sans défaillance. Maintenant, le silence vous environne. Toute fatigue a disparu. On vit, on pense, on est libre. Ces quelques heures de repos
achetés laborieusement pendant de longues années. Je les ai trouvés en prison. Voilà tout.
Ils nous ont chassés des usines, des bureaux, des magasins. Et quand nos ventres crient famine, nous claquent colère, crispent nos poings. C'est avec des gourdins que les bourgeois calment notre faim. Allons les gars, qu'on en termine avec leur bobard patelin. C'est tout de suite et non pas demain qu'il nous faut du travail et du pain. Du travail et du pain, c'est notre cri de guerre. Assis, assis, assis de la misère, comme éternel copain. Du travail et du pain, les bourgeois font bonne chère. Chez nous, les vieux, les femmes, les gosses ont faim. Nos femmes, nos gosses ont faim. Du travail et du pain, exigeons, arrachons. Du travail et du pain, du travail et du pain. 50 millions par le monde, dans les champs, dans les cités. Ils dressent leur masse profonde, les sans pain et les sans souliers. Mais de tous les côtés, gronde la haine des révoltés. Nous avons faim, le blé abonde, nos maîtres préfèrent le brûler. Nous avons froid, le charbon s'entasse sur le carreau des puits désertés. Du travail et du pain, c'est notre cri de guerre. Assis, assis, assis de la misère, comme éternel copain. Du travail et du pain, les bourgeois font bonne chère. Chez nous, les vieux, les femmes, les gosses ont faim. Nos femmes, nos gosses ont faim. Du travail et du pain, exigeons, arrachons. Du travail et du pain, du travail et du pain. Trim sans fin, trim prolétaire, sois esclave mais crée de l'or. Ta part c'est l'unique salaire, c'est l'os qu'on jette à ton effort. Mais dans leur coffre-fort, les riches entassent des trésors. Nous laisserons-nous toujours faire, luttons ensemble, nous serons forts. Pour revendiquer tous dehors, quand le chien faim, le chien mort. Du travail et du pain, c'est notre cri de guerre. Assez, assez, assis de la misère, comme éternel copain. Du travail et du pain, les bourgeois font bonne chère. Chez nous, les vieux, les femmes, les gosses ont faim. Nos femmes, nos gosses ont faim. Du travail et du pain, exigeons, arrachons. Du travail et du pain, du travail et du pain.
Ainsi se termine cette sixième émission d'une série consacrée à Louise Michel, pour à la fois évoquer sa vie et ses luttes et lui rendre hommage. Au fil de celle-ci, vous avez pu entendre les documents et illustrations musicales suivantes, des extraits de la cantate pour Louise Michel de Michel Bernard, avec les percussions de Tréfort, et l'ensemble vocal Résonance Contemporaine, sous la direction d'Alain Goudard. Le morceau « L'oiseau noir du chant fauve », un chant traditionnel de Haute-Marne, interprété par Michel Bernard, puis c'était un instrumental des percussions de Tréfort intitulé « Les Canaques ». Ensuite, vous avez entendu les élèves des CM1, CM2 de Villefontaine interpréter Jean-Baptiste Clément sur une musique d'Eugène Manesco, « Liberté, égalité, fraternité ». Puis c'était la chanson « Le mouvement du 18 mars 1871 » de Léger Ferré sur une musique de Pierre Dupont, interprété par Rosalie Dubois. Ensuite, Jean-Luc de Baptiste, sur des paroles de Jules Jouy et sur sa musique, interprétait « Sur la butte ». Puis c'était un texte de Victor Hugo, dit par André Bonhomme, pour notre émission « Une lecture de Viromajor ». Ensuite, un extrait de « Elle n'est pas morte », la chanson d'Eugène Potier, mise en musique par Nicolas Parizeau, dans l'interprétation théâtrale de la compagnie Imbert. Ensuite, Claude Antonini, sur sa musique et sur les paroles de Jean-Baptiste Clément, interprétait « Traîne misère ». Toujours Jean-Baptiste Clément, la chanson « Au loup », interprétée par Claude Reva. Puis c'est Serge Gerroyo qui interprétait sa composition « Amis dessous la cendre ». Avant que, pour terminer, vous entendiez le chant des chômeurs de Ducamp sur une musique de Hercoby dans l'interprétation de Rosalie Dubois. Les plages de diction étant composées d'extraits de la création théâtrale de la compagnie Imbert La Vierge Rouge et de lectures de lettres de Louise Michel, extraites des missions de France Culture que nous remercions. Nous vous proposons de retrouver la suite de la vie et des luttes de Louise Michel lors d'une future émission. Bonsoir.
Thank you.